Au sommaire de ce journal, la nation iranienne a transformé les sanctions en opportunités. Se félicite le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Transgénéraux et officiers de haut rang israéliens sont détenus par le Hamas. Et puis, une délégation économique nord-coréenne en visite en Iran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré que les progrès de la République islamique en matière de production d'armes témoignent de cette réalité qu'une nation vivante peut transformer les sanctions en opportunités. L'Ayatollah Khamenei a accordé ce mercredi une audience à un groupe de travailleurs venant des quatre coins de l'Iran à Téhéran à l'occasion de la Semaine du Travail. La Semaine du Travail en Iran a débuté aujourd'hui, mercredi 24 avril. Le leader de la révolution iranienne a déclaré que les sanctions imposées au pays visaient principalement à mettre la République islamique d'Iran en difficulté et à l'obliger à suivre des lignes coloniales et arrogantes. La nation iranienne, avec son zèle et sa longue tradition islamique, a pourtant rendu de telles tentatives vaines et ne s'est pas soumise à une telle coercition. Il a salué ensuite le progrès de l'Iran pour vaincre les stratagèmes de sanctions de l'ennemi, affirmant qu'une nation vivante se crée une opportunité pour contrer l'hostilité de l'ennemi. Les pressions ont aidé les Iraniens à réaliser de grands progrès, notamment dans le secteur de l'armement. Les sanctions ne parviendront pas à mettre la nation iranienne à genoux, car elle n'a pas placé ses espoirs dans une aide étrangère. Cet esprit doit disparaître, a-t-il soutenu. La nation iranienne doit montrer sa force par le travail, l'action et l'unité nationale, a-t-il réaffirmé. Le président iranien Ibrahim Raisi a lancé un sévère avertissement contre toute agression israélienne sur le sol iranien, affirmant que le régime occupant serait confronté à une réponse dévastatrice en cas de nouvelle erreur. Le président Raisi a tiré la sonnette d'alarme lors d'une réunion mardi avec l'élite culturelle et universitaire du Pakistan à l'université gouvernementale de Lahore dans la province centrale du Pendjab. À cette occasion, il a évoqué les frappes de représailles iraniennes contre Israël le 13 avril en réponse à l'agression du régime sioniste contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran en Syrie, soulignant que l'Iran avait puni Israël pour son attaque contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas en violation de toutes les lois et conventions internationales ainsi que la Charte des Nations Unies. Le président Raisi a martelé: si le régime sioniste commet une autre erreur en lançant une autre agression contre le sol iranien, la situation sera différente. Cette fois, il ne sait pas exactement ce qui restera d'Israël après une telle erreur. Soulignant le soutien indéfectible de Washington à la guerre menée par Israël depuis des mois dans la bande de Gaza assiégée, le président iranien a déclaré: le soutien américain et occidental au régime sioniste, qui a tué et blessé plus de 100 000 Palestiniens à Gaza, prouve aujourd'hui que les plus grands violateurs des droits de l'homme ne sont que les États-Unis et les Occidentaux et que leurs allégations de défendre les droits de l'homme sont fallacieuses. En allusion à la vaste opération de représailles du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, dans la nuit de 13 à 14 avril, le porte-parole des brigades Qassam du Hamas a affirmé que la riposte ferme de l'Iran a déjoué les calculs de l'ennemi et a donné lieu à de nouvelles équations. Abu Obaida, porte-parole des brigades Ezzedine al-Qassam du mouvement Hamas, a affirmé comme suite: nous appelons l'Oumma islamique tout entière à intensifier ses actions en appui à la résistance. La résistance restera loyale envers les dévouements du peuple. Nous sommes porteurs des douleurs, mais aussi des espoirs de la nation, a-t-il dit. Rappelant que la résistance continue de combattre les sionistes dans la bande de Gaza assiégée, Abu Obaida a affirmé: 200 jours se sont écoulés et l'armée occupante sioniste est toujours embourbée à Gaza, et en proie à une véritable crise, poursuit les destructions et le massacre des Palestiniens. Il a rappelé qu'il n'y a aucun horizon prometteur pour l'ennemi à Gaza. L'ennemi n'a pas réussi à rendre possible la libération de ses captifs, a-t-il ajouté. Les forces occupantes cherchent à persuader le monde entier du fait qu'elles ont détruit tous les groupes de la résistance, mais ce n'est qu'une grande imposture, a ajouté le porte-parole des brigades Qassam. Il a également tenu à saluer et présenter ses remerciements pour tous les efforts populaires ou militaires en appui à l'opération Tempête d'Al-Aqsa, surtout sur le front libanais, au Yémen et en Irak. Le Hamas détient à lui seul 30 généraux et officiers de haut rang israéliens. Un haut responsable du mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré que le groupe détenait à lui seul 30 généraux et officiers de haut rang israéliens. La source qui a souhaité garder l'anonymat indiquait dans une interview accordée à Al Arabi Al Jadid qu'il n'est bien sûr pas possible de déterminer avec précision le nombre de prisonniers vivants, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est supérieur aux chiffres annoncés par les médias hébreux. Le mouvement détient à lui seul environ 30 généraux et officiers du Shin Bet qui ont été capturés le 7 octobre. Ces prisonniers sont détenus dans des endroits hautement sécurisés et hors de portée des forces d'occupation et leur accès est impossible en toutes circonstances, a noté ce responsable du Hamas avant de préciser que Benjamin Netanyahou et ses ministres cachent de nombreuses informations sur l'identité de certains prisonniers pour éviter de provoquer la colère des militaires. La reprise des opérations du régime sioniste dans le nord et le centre de la bande de Gaza, après avoir déclaré ces zones nettoyées et sûres, est un signe de son échec, a-t-il indiqué. Selon ce dernier, la résistance se porte toujours bien et contrôle toujours de manière disciplinée les structures intégrées dans le domaine des opérations. La source a déclaré que le leader du mouvement Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, n'est pas isolé de la réalité là-bas, malgré la guerre en cours et les opérations des renseignements israéliens qui ne s'arrêtent pas. L'affirmation selon laquelle Sinwar s'est isolé dans les tunnels n'est rien d'autre qu'une allégation de Netanyahou et de ses agents pour dissimuler son échec dans la guerre. Sinwar exerce son travail, le leader du mouvement sur le terrain, a-t-il dit. Israël a lancé une guerre brutale contre la bande de Gaza, soutenue par les États-Unis le 7 octobre 2023, à la suite de l'opération Tempête d'Al-Aqsa du Hamas contre les territoires occupés. Depuis, le bilan des victimes ne cesse d'augmenter tous les jours. Au moins 34 183 personnes ont été tuées. Les femmes et les enfants représentent environ 72% des victimes de la guerre. Environ 77 143 autres Palestiniens ont été blessés. Plus de 130 personnes ont été arrêtées dans la nuit de lundi à mardi devant des locaux de l'Université de New York après des manifestations étudiantes pro-palestiniennes, dernier épisode de la tourmente provoquée par le conflit à Gaza sur des campus américains. Les 133 personnes ont été relâchées, a affirmé un porte-parole de la police new-yorkaise. Parmi elles figurent des étudiants et des enseignants, selon des témoignages sur les réseaux sociaux. Mais le vif débat et la colère sont loin de retomber. L'administration de mon université, mes élus au Congrès et même le président se comportent comme s'ils étaient des porte-parole de la communauté juive, assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Ils nous réduisent au silence, nous suspendent, a dénoncé devant la presse Sarah Borus, une étudiante juive pro-palestinienne du Bernard College de l'Université de Columbia. La semaine dernière, une centaine d'étudiantes de Columbia réclamant la fin de la guerre qui ravage Gaza et que leur établissement boycotte toute activité en lien avec Israël ont été interpellées. À Yale, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées dans des circonstances similaires. Visite d'une délégation économique nord-coréenne en Iran. La Corée du Nord a envoyé une délégation économique en Iran, ont rapporté ce mercredi 24 avril les médias officiels de Pyongyang, un voyage inédit qui annonce le renforcement de la coopération entre les deux pays. La délégation dirigée par le ministre des Relations économiques extérieures a quitté Pyongyang la veille pour se rendre en Iran, a indiqué l'agence centrale de presse coréenne dans une brève annonce d'une phrase sans donner davantage de détails. Il est rare qu'un haut responsable nord-coréen se rende en Iran. En 2019, Park Chol-min, alors vice-président nord-coréen de l'Assemblée populaire suprême, s'est rendu en Iran pour discuter de coopération. La délégation parlementaire nord-coréenne, conduite par Park Chol-min, vice-président de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée et chef du groupe d'amitié parlementaire Iran-Corée du Nord, a rencontré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères de l'époque, Seyed Abbas Arorchi, en août 2019 à Téhéran. Lors de la réunion, ils ont discuté du renforcement de la coopération entre Téhéran et Pyongyang sur les questions parlementaires, politiques, économiques et internationales. Le responsable nord-coréen a décrit la visite de sa délégation à Téhéran comme une opportunité idéale pour le développement des relations et a salué le succès du gouvernement et de la nation iranienne dans la gestion des sanctions américaines. En 2018, le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord s'est déplacé à Téhéran à la tête d'une haute délégation. Ayant établi des relations diplomatiques en 1973, Pyongyang et Téhéran sont connus pour entretenir des liens étroits alors qu'ils sont sous le coup de sanctions internationales pour leur programme nucléaire civil. Parallèlement à la coopération économique, la Corée du Nord cherche également à approfondir ses liens militaires avec l'Iran. Les experts ont déclaré que le Nord pourrait demander l'aide de l'Iran sur la technologie des missiles à combustible solide, comme un missile balistique équipé d'une ogive hypersonique. Ce développement intervient alors que la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fustigé ce mercredi les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, rappelant que le Nord s'est engagé à renforcer sa puissance militaire contre les forces hostiles. Kim Yo-jong a également accusé les États-Unis et la Corée du Sud de plonger la région dans une tourmente dangereuse. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Nous avons brisé le mythe de la supériorité des armes occidentales, a déclaré le ministre russe de la Défense. Sergueï Shoigu a déclaré mardi que le mythe de la supériorité des armes occidentales avait disparu lors du conflit en Ukraine. La Russie va intensifier ses attaques contre les centres logistiques et les installations de stockage d'armes occidentales en Ukraine, a ajouté le ministre russe de la Défense. S'exprimant lors de la réunion du collège du ministère de la Défense, Sergueï Shoigu a assuré que les forces armées russes avaient l'initiative sur toute la ligne de contact. Au total, les pertes, les tués et les blessés des forces armées ukrainiennes s'élèvent à près d'un demi-million de personnes depuis le début de l'opération militaire spéciale, a-t-il indiqué. Selon Shoigu, le régime de Kiev n'a pas réussi à atteindre ses objectifs lors des contre-attaques perpétrées par les formateurs de l'OTAN. En référence à l'approbation du nouveau plan d'aide américain à l'Ukraine, le ministre russe a estimé que le plan d'aide de 61 milliards de dollars que les États-Unis ont alloué à l'Ukraine pour empêcher l'effondrement de ses forces armées financerait plutôt le complexe militaro-industriel américain. Notant l'intensification des activités de l'OTAN dans l'Arctique et aux frontières ouest et nord-ouest de la Russie, M. Shoigu a affirmé que la Russie prendrait des mesures de réponse adéquates. Il a ajouté que les districts militaires de Moscou et de Leningrad, récemment rétablis, avaient commencé à effectuer des tâches en ce sens depuis le 1er mars. Proportionnellement aux menaces que font peser les États-Unis et leurs alliés, la Russie continuera d'améliorer sa composition militaire et de produire davantage d'armes et d'équipements militaires parmi les plus demandés, a ponctué le ministre russe de la Défense.